il va nous envoyer vos questions. Combien d'entre vous ont vu des présentations sur la conformité cette semaine? Est-ce que quelqu'un a vu une présentation sur cette question de la conformité? Bien. La prochaine diapo, Matt. Est-ce qu'on peut l'agrandir, s'il te plaît? Je vais m'acheter des jumelles pour la prochaine fois. Hein? Bien. Merci. Bien, alors, la prochaine. Donc, la conformité contractuelle est une fonction qui dépend des équipes d'ICANN. Et comme vous le voyez sur cette diapo, nous appartenons à la grande communauté d'ICANN et nous servons donc et nous travaillons et avec toutes les différentes parties prenantes et les membres de la communauté d'ICANN. Tout le monde s'intéresse à la façon dont nous faisons notre travail et comment nous travaillons avec les parties contractantes. Alors, la base de notre travail est le contrat. Alors, c'est très important de savoir ça, hein, parce que des fois, les gens pensent que l'on peut aller voir quelqu'un, lui demander de fermer son site Internet parce que le contenu n'est pas bon. Eh bien, dans le contrat, on ne parle pas de contenu. Par conséquent, le contrat a des règles très spécifiques, des accords très spécifiques que tout le monde, du côté d'ICANN et du côté de la partie contractante, doit élaborer ensemble. Le contrat que nous avons, comme vous le savez, est entre le registre et le bureau d'enregistrement, et ça, c'est donc la portée de notre travail. De toute façon, si l'on connaît bien le fonctionnement d'ICANN, on sait que les parties contractantes signent aussi un contrat entre elles-mêmes et avec d'autres parties, d'autres membres de la communauté comme le registrant ou comme le revendeur. Par conséquent, le contrat en lui-même a des éléments qui vont passer comme un flux hein, au prochain niveau, mais si on a un problème, on va travailler seulement avec la partie contractante. Voilà, ici, vous voyez, quelque chose qu'il est très important de garder en tête, hein, parce que vous voyez, c'est un modèle compliqué. Hein. Donc, pour nous, quand on construit notre vision hein, pour faire notre travail comme il faut, nous devons être capables de travailler avec tout le monde et de mériter la confiance de la communauté parce que chaque partie prenante, comme vous le savez, a différents intérêts dans ce qui concerne la conformité contractuelle pour répondre à leurs propres intérêts ou à ceux de la communauté. Pour les contractants qui sont seulement intéressés, hein, et rappelez-vous que c'est un service que ICANN offre. Par conséquent, nous devons mériter cette confiance. Hein. Et nous allons donc travailler avec les membres de la communauté. Nous allons écouter leurs attentes et nous allons essayer de leur offrir des rapports, des données pour faire appliquer, respecter les contrats avec les parties contractantes. Donc, dans notre organisation, aujourd'hui, l'équipe est d'une douzaine de membres, avec moi-même dans la salle, Pam Little, qui est la directrice de notre équipe et qui s'occupe aussi de l'Asie et du Pacifique. Il y a aussi Jacques Ouazard, Jacques, levez votre main, et Jonathan. Jacques est aussi un nouveau membre de notre équipe qui travaille avec nous depuis seulement 2 semaines. Il va se focaliser sur le risque et les audits de gestion. Vous savez qu'il est très important d'identifier les risques puisque les stratégies dans notre audit nous entraînent à être sûrs d'avoir un plan d'atténuation. Jonathan travaille dans l'équipe qui soutient les données, les fonctions RUIS et IDRP. Et cette équipe se focalise principalement sur ce que nous appelons le travail avec le bureau d'enregistrement et les registres et la conformité dans ce domaine. L'équipe a acquis des connaissances et travaille ensemble en se basant sur la demande, le volume et notre travail en général. L'objectif est que tout le monde puisse rentrer dans notre équipe et nous aider en fonction de ce qui arrive. Des fois, il y a plus de volume de travail du côté des bureaux d'enregistrement, donc nous avons besoin d'une équipe qui puisse s'occuper de cela. Maintenant, avec les nouveaux GTLD, nous ne savons pas très bien ce qui va se passer. Donc, on essaye encore de former notre équipe et pour pouvoir travailler dans ce domaine. Une autre fonction importante pour la conformité contractuelle est la partie du reporting, les mesures des résultats de performance et le reporting. C'est une question clé pour mériter la confiance de la communauté et pour être transparent. Vous savez que la structure d'ICANN et la communauté d'ICANN attend de nous une certaine transparence et nous avons amélioré notre système de reporting. Nous disons à la communauté le nombre de plaintes que nous avons. Ce n'est pas suffisant parce que la communauté nous dit qu'elle veut en savoir davantage, savoir où se trouve le problème. Qu'est-ce qui cause le problème? Par conséquent, maintenant, nous utilisons davantage les données pour donner davantage d'informations à la communauté, mais surtout pour que nos équipes puissent mieux gérer ces secteurs de problèmes et aborder le problème à sa racine et travailler avec les parties contractantes pour avoir des résultats. Ce dont je vais vous parler maintenant va être présenté dans deux diapos et puis je vous demanderai de me poser des questions. Nous sommes un petit peu en retard, donc je m'excuse. Je dois partir à 8h30. Nous avons un autre engagement avec mon équipe. Mais ici, le plus important que vous devez savoir, c'est que si nous avons participer à des forums, à des réunions. Si vous avez participé à des réunions cette semaine, vous savez qu'on a une culture basée sur la conformité. Pourquoi? Parce que c'est important que la communauté se rende compte que tout le monde et chacun d'entre nous est un membre important pour donc être sûr que la conformité soit respectée. Donc, on commence par le bas. On a un système ascendant avec nos parties contractantes. On travaille avec nos parties contractantes. On fait aujourd'hui ce qu'on appelle l'auto-évaluation. C'est une espèce de questionnaire. On fait un test avec ce questionnaire. Alors, une fois par an, avant de lancer un audit, on va envoyer un questionnaire aux parties contractantes pour que ces parties contractantes nous fournissent des informations basées sur le rôle et sur les différentes dispositions contractuelles. Donc, on va recevoir ces informations et on va essayer de voir qui va continuer, dans quel cas on va continuer à faire un audit. Ce qui est important dans l'auto-évaluation, c'est que c'est comme une liste de contrôle. Les parties contractantes savent que cette liste qui est une obligation pour le contrat. Et donc, ils vont l'utiliser pour fonctionner comme il faut, mais ils vont l'utiliser aussi pour leurs équipes, pour être sûrs que leurs équipes respectent toutes ces données. Donc, c'est un objectif qui nous permet d'appliquer ce système. Nous avons fait un test, nous avons demandé aux parties contractantes, qui étaient volontaires, de nous donner leurs conclusions. Vous savez que la communauté d'ICANN parle de nombreuses langues. Donc, ce questionnaire d'auto-évaluation est en anglais. Nous avons des volontaires de différentes parties contractantes. Et nous leur demandons, est-ce que les questions sont clairement rédigées en anglais, parce qu'on ne veut pas que les personnes interprètent la question. On veut que la personne comprenne la question. Il faut qu'elle soit très claire. Combien de temps vous avez mis pour répondre à cette question? Est-ce que c'est facile? Est-ce que cet outil est facile à utiliser? Nous voulons savoir, de leur part, comment ils le considèrent, ce questionnaire. Notre département regarde aussi si nous recevons des bonnes informations, des informations correctes que nous pouvons utiliser, ou si nous avons besoin d'améliorer ces informations et de rédiger ce questionnaire d'une autre façon. Donc, c'est une liste donc de contrôle. Est-ce que ça marche pour les parties contractantes du monde entier? Et est-ce que ça marche pour le système de conformité pour qu'on puisse faire notre travail comme il faut avec de bonnes, en nous basant sur de bonnes informations? L'autre diapo que je voudrais vous montrer, c'est une diapo que nous avons montrée à tout le monde parce qu'elle est très importante, cette diapo. Les gens disent, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un processus cohérent? Eh bien, parce que ça va nous permettre de travailler très efficacement et c'est une approche standard de tous les contrats. Nous recevons une plainte du côté gauche. Vous voyez l'entrée de la plainte. Hein? Donc, on a différents systèmes, différentes façons de recevoir cette information de la plainte, email, etc. Hein? Donc, ne vous intéressez pas à ce que contient cette colonne. Ce sont des systèmes que l'on veut. Donc, ce sont des exemples. Le plus important ici, c'est que la plainte que nous recevons dans notre système va être envoyée vers ce que nous appelons la résolution informelle. Et nous avons étape 1, étape 2, étape 3 avec des données bien spécifiques dont nous avons besoin, des informations bien spécifiques pour nous aider à prendre correctement notre décision. Et si nous n'avons pas de collaboration de la part de la partie contractante, si la partie contractante ne nous fournit pas les informations nécessaires, nous parvenons à la phase formelle qui est donc l'application de la loi. Lorsqu'on atteint cette phase, cela veut dire que l'on va dire à la communauté ce qui se passe. Parce qu'au début, on veut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème d'incompréhension. Des fois, on doit parler avec des gens en anglais, en turc, par exemple. Hein, on a besoin d'une traduction. L'anglais ne suffit pas. Très souvent, les gens pensent qu'on leur demande une chose et même si on leur dit qu'on va entrer en contact avec eux, des fois, on a du mal. Je dois parler en français, par exemple, avec certaines parties contractantes. Hein. Donc, ça nous donne du temps, hein, parce qu'on a vraiment un calendrier à respecter. Mais donc, on profite de cette phase informelle pour collaborer, hein, parce que tout le monde n'est pas mauvais. On ne part pas de ce principe-là. Donc, il va y avoir des filtres hein, jusqu'au moment où on va faire l'application de la loi. Lorsqu'on arrive à la partie formelle de la résolution, cela est publié sur notre site Internet. Là, on est très strict, on respecte un certain calendrier hein, et on va se focaliser sur vraiment l'application, le respect de la loi parce que c'est très important et cela est visible hein, pour tout le monde. Donc, ce que je veux faire maintenant, comme je l'ai déjà dit, à cause du problème de temps que nous avons, je vais vous donner la parole pour une série de questions. Et ensuite, le reste du matériel est à votre disposition. Nous avons des informations qui sont données par région sur les différentes informations données qui sont ici. Si vous voulez, vous pouvez demander un petit peu aussi ici des détails sur l'application, le maintien de la loi. Hein. Nous avons d'autres matériels. Hein, donc, regardez ce matériel. Si vous n'avez pas de questions à nous poser, si vous ne nous envoyez pas de mail, on aura de vos nouvelles lors de la prochaine réunion d'ICANN. Alors, une question. Merci beaucoup, Maggie, de ta présence ici. Vous m'entendez? Merci beaucoup, de ta présence. Nous te remercions. Hein. Et ma question est la suivante. ICANN fait des contrats. Nous devons essayer de faire respecter ces contrats à partir de votre département. Cela se fait. Quel est le menu maintenant? Quelle est la série de points hein, que possède ICANN et qui sont destinées à protéger, je dirais, les usagers? Hein, quels sont les systèmes qu'utilise ICANN pour protéger ses usagers? Bien, si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si le contrat avec les parties contractantes, que se passe-t-il en ce qui concerne la communauté, les utilisateurs, les registrants, l'utilisateur final, c'est ça votre question. Ce que je vous demande, hein, c'est quelles sont les méthodes que nous avons hein, pour donc le respect d'un contrat, hein, pour donc que l'entreprise respecte son contrat envers les utilisateurs, hein, puisque nous devons nous protéger la communauté. Mais il y a quand même une partie qui devrait être le regard d'ICANN vers l'utilisateur final. Hein? Et celui qui achète le service de domaine, qui interagit avec le service de domaine. Bien, je vais essayer de répondre à votre question en anglais. Maggie nous a montré plutôt les plaintes des contractants. Hein. Nous avons les plaintes avec les registres, avec les bureaux d'enregistrement. Dans ces contrats, on a des règles que le registre et le bureau d'enregistrement doivent respecter. Ces règles sont faites pour protéger les registrants. Donc, ils doivent se plaindre, ils doivent présenter une série de... Il y a une série de méthodes pour que les registres et les bureaux d'enregistrement présentent hein, ou reçoivent cette plainte, mais nous avons donc une série de méthodes. Tous les bureaux d'enregistrement doivent fournir sur leur site Internet un lien vers un document qui s'appelle « Droits et obligations des registrants » ou « Responsabilités des registrants » et ce document se trouve sur le site d'ICANN. Si vous regardez la fourniture de contrats d'ICANN avec les bureaux d'enregistrement ou les polices et les politiques, vous constaterez que tout cela est fait pour protéger les registrants. Par exemple, la politique de transfert inter-bureau d'enregistrement est faite pour que la responsabilité de la personne puisse permettre de faire certains choix. Hein. Donc, il y a des mécanismes de protection qui sont reflétés dans le contrat, dans la politique d'ICANN. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je voudrais ajouter que, s'il vous plaît, allez voir sur le site Internet d'ICANN la partie des nouveaux arrivants. On fournit beaucoup d'informations sur tout ce qui concerne la question que vous avez posée, hein, les politiques, la façon de protéger l'utilisateur, etc. Merci. Je voulais ajouter quelque chose de très important. Vous pouvez voir sur l'écran un des systèmes qui s'appelle. Vous voyez que c'est une fenêtre qui vous permet de présenter une plainte. Ça s'appelle le ticket, le C-ticket, le ticket C, hein, qui vous permet de présenter une plainte hein, au nom du bureau d'enregistrement. Oui, je m'excuse, mais on a une seule question hein, maintenant parce que Maggie doit partir. Fatima veut prendre la parole, Fatima? Salah? J'ai vu que tu voulais prendre la parole. Est-ce qu'on peut garder la question pour après ou envoyer la question par mail? Bien, Fatima. Merci, José. Merci pour votre présentation, Maggie. Je suis un petit peu en retard. Hein. Je suis arrivée un petit peu en retard. Hein. Donc, je voudrais savoir si, en tant que volontaire, nous pouvons collaborer avec votre département. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut le faire comme communauté, comme regroupement, ou est-ce qu'on peut collaborer de façon individuelle avec vous? Merci. Je ne suis pas sûre que, en tant que volontaire, quel est vraiment le niveau de collaboration que vous voulez avoir avec nous, mais nous encourageons la collaboration à travers la communauté ou les regroupements auxquels vous appartenez. Par exemple, je sais qu'à travers la LAC, la communauté de la LAC, hein, nous collaborons, ils nous envoient des questions. Et à chaque réunion de ICANN, nous nous réunissons, nous leur donnons une petite mise à jour concernant les activités, nos activités, mais nous parlons, nous répondons à leurs questions, nous parlons de leurs soucis, hein, et des choses qui les intéressent. Hein. Donc, je n'ai pas vraiment une réponse affirmative à vous donner, hein, parce que vous pouvez bien vous rendre compte que tout le monde, si tout le monde voulait devenir volontaire, on ne pourrait pas faire notre travail. Hein. Donc, il vaut mieux que vous offriez une structure, hein, avec un groupe, un regroupement derrière, hein, que vous, si vous voulez, envoyez-moi un email avec une question précise et je ferai de mon mieux pour y répondre. D'accord? Bien. Merci beaucoup, Maggie, pour ta présentation. Hein. Peut-être que lors de la prochaine réunion, hein, nous pouvons le faire plus tranquillement. Hein. Le matin, il y a trop de réunions, donc je suis pressée. Bonne journée. Bien. Jusqu'à ce que notre prochaine, avant que notre prochain orateur commence, je voulais vous dire, et pour que ça soit, ça figure dans le compte rendu, hein, le taux d'insertion de participation du cours de formation d'aujourd'hui, hein, le taux de participation est vraiment très très bas. Hein. Je voulais que ça figure dans la transcription, donc je voulais le dire ici dans le micro. Voilà.
Sí, simplemente un recordar.
Bien, je voulais vous rappeler qu'à 10h30, l'Assemblée générale commence dans la salle Orchidia. Donc, s'il vous plaît, on vous attend. Hein. La deuxième partie de l'Assemblée générale de la CRALO aura lieu à 10h30 dans le salon, dans la salle Orchidia.
Bueno, damos.
Bien, nous allons maintenant passer au deuxième invité de la matinée. Donc, Alan Greenberg, merci. Alan est membre de la LAC et il est la liaison du CCNSO. Donc, Alan, merci pour votre présence. Bienvenue. Une petite précision. Pardon, hein, liaison du GNSO. Bien, merci. Gisela, est-ce que je peux avoir une image un peu plus grande? La prochaine diapo. Bien, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un sujet qui me paraît très très important, qui est important de comprendre et qui est très difficile aussi. Hein. Je m'en excuse, hein. Mais finalement tout dans ICANN est difficile à comprendre en général. Hein. Bien, alors l'organisation de soutien de non générique, le GNSO, est une organisation d'ICANN qui est responsable des politiques liées au GTLD. L'organisation a la capacité de faire d'autres choses, mais c'est le seul secteur dans lequel les politiques peuvent être faites pour les GTLD qui vont du GNSO au directoire. Une série de politiques de ce type sont appelées des politiques de consensus. Je l'ai écrit ici. Hein. On a donc majuscule, P majuscule, C majuscule. Le mot consensus dans ICANN est utilisé dans beaucoup de domaines. Si vous pensez que c'est difficile parce que vous parlez en espagnol, je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème en anglais, c'est qu'on utilise le même mot, écrit de la même façon, mais avec différents sens. Et vous devez savoir quel est le mot correct utilisé correctement. Le mot consensus, il y a beaucoup de mots comme ça à ICANN. Consensus, c'est un mot qui est compliqué. Quand on voit politique de consensus, hein, avec P majuscule et C majuscule, cela veut dire que l'on parle de quelque chose qui est souvent appelé aussi à l'intérieur hein, d'un certain périmètre, hein, voilà, un secteur périmétré. Hein. Donc, ce périmètre hein, concerne les parties du contrat d'ICANN avec les bureaux d'enregistrement et avec les registres, ces parties qui ne peuvent pas être modifiées par le GNSO. C'est-à-dire que le bureau d'enregistrement et le registre dit qu'il va obéir à ce contrat, mais ce contrat peut changer d'une minute à l'autre. Si le GNSO adopte une nouvelle politique de consensus, hein, qu'est-ce qui est éligible comme politique de consensus hein, dans le contrat hein? Alors, on va en parler plus tard, hein, mais c'est important donc de savoir déjà ce premier point. Prochaine diapo. Ce que vous avez ici est une image de l'organisation du conseil du GNSO actuel. Le GNSO est l'organisme qui a précédé le DNSO, hein, qui existait avant la séparation du CCNSO. C'était une organisation complexe pour donc s'occuper d'une série de problèmes. Hein. Ça a été réorganisé il y a quelques années et c'est devenu encore plus compliqué, je dirais. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, le conseil dans sa totalité, le conseil, je dirais, est un équivalent de la LAC. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble du GNSO est formé de tous les regroupements de tous les membres des bureaux d'enregistrement, des registres, des commerces et des non-commerces, des groupements non commerciaux. Hein, donc, ce groupe de personnes, hein, ce GNSO équivaut à la LAC, à l'organe hein, qui donne des responsabilités et qui prend des décisions. Le GNSO a deux parties, l'une pour les parties contractantes, hein, le côté gauche et la partie pour les parties non contractantes, le côté droit. Hein. Ensuite, on a les registres, les bureaux d'enregistrement, les groupes de parties prenantes commerciaux et non commerciaux. On a trois personnes de NOMCOM, une dans chacun de ces secteurs et va avoir un vote. Une personne appartient au conseil du GNSO, mais pas dans une des chambres. Hein. Et donc, cette personne n'a pas de vote. La troisième personne n'a pas le droit de vote. Prochaine diapo. Alors, la partie de vote hein, par laquelle le GNSO va approuver certaines choses, c'est un système complexe, comme vous pouvez le voir. Il y a différents seuils qui sont utilisés pour différents types de choses. Par exemple, hier, le GNSO a approuvé un processus de développement de politique sur le who is thick ou épais, c'est-à-dire est-ce que .com, .net, .jobs doivent être utilisés avec who is épais ou fin. Si vous regardez pour lancer un PDP, il suffit d'une majorité d'un tiers des deux chambres. Donc, c'est un seuil très bas. Pour commencer un rapport de problème, l'étape précédente, il suffit d'avoir 25% hein, comme seuil. Et d'un autre côté, pour approuver un PDP, hein, le résultat, pour prendre une recommandation et dire au directoire, mettez cela en œuvre, il faut avoir une super majorité. Hein, il y a deux possibilité, les deux tiers dans les deux chambres ou trois quarts dans une chambre et la moitié les voit dans l'autre chambre. Donc, on peut se demander pourquoi les choses sont si compliquées. La raison, c'est qu'elle est importante. Le concept de supermajorité au sein d'ICANN est de deux tiers. C'est utilisé souvent par le directoire aussi. D'un autre côté, si l'on divise les choses en deux chambres, qu'est-ce qui se passe si l'on essaye d'approuver des recommandations pour les registres et si les registres ne veulent pas ces recommandations? Que se passe-t-il alors? Si tout le monde veut ces recommandations mais que les registres ne les veulent pas, eh bien alors, on va leur demander de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc, la structure établit que l'on peut approuver cela. Dans la mesure où les autres chambres sont d'accord et où on a un bon nombre de personnes, au moins 50% des membres, avec les NOMCOM, on peut avoir 50% sans que les registres l'approuvent. Donc, il est établi qu'une seule partie prenante ne peut pas donner son veto. C'est très important comme concept. Parce que très souvent, les politiques dépendent d'un groupe de parties prenantes. Donc, cela vous donne une idée de ce qui se passe au sein de ce processus, la façon dont le GNSO approuve des politiques. C'est très facile de discuter des politiques, mais c'est beaucoup plus difficile d'approuver ces politiques. Et une fois que le GNSO approuve une politique avec une supermajorité, avec les deux tiers, donc, des voix, le directoire doit approuver cette politique, à moins que les deux tiers du directoire votent contre. Donc, à moins que les deux tiers du directoire prennent une position contre, le directoire n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix, il doit approuver cette politique. Par conséquent, c'est un système très solide, très complexe, et avec une série de sécurités qui existent pour permettre qu'il fonctionne correctement. Les problèmes de politique maintenant. Ces problèmes de politique peuvent couvrir une série de thèmes, WHOIS, dont on parle beaucoup en ce moment, les nouveaux GTLD, la politique qui nous permet de présenter les nouveaux GTLD, qui est le résultat d'un processus de développement de politique au sein du GNSO qui a duré 3 ans. Les transferts entre bureaux d'enregistrement que Maggie a mentionné, le fait de passer d'un bureau d'enregistrement à l'autre, c'était une politique qui est passée par le GNSO aussi. Nous sommes dans un processus de 5-6, nous sommes passés par un processus de 5 ou 6 ans pour le mettre en place. Le processus de résolution de conflits universels, l'UDRP, c'est quelque chose de très important que les noms de marque, les marques utilisent, et c'est un processus par lequel on peut donc arrêter. Certaines politiques GNSO sont très, très politiques, sont très techniques. Certaines sont légales, certaines ne le sont pas. Donc, on a toute une série de types de politiques. Toutes les politiques sont importantes pour un groupe de gens. C'est pour ça qu'elles sont discutées au sein du GNSO. Beaucoup sont importantes aussi pour les utilisateurs. Prochaine diapo.
Comment ça se met en place? Il y a une politique formelle, c'est pourquoi on met le P en majuscule, et le résultat d'un processus que l'on appelle le processus de développement de politique, le PDP. Les règles de ce PDP figurent dans le règlement intérieur de l'ICANN. Elles sont définies de façon très détaillée par processus et par étapes. Ce PDP a été révisé pendant 2 ans. Pour arriver au résultat actuel, et au niveau de l'at large, il y a eu des améliorations qui ont été incorporées. Et au niveau du PDP, on dit que si at large demande à ce qu'un sujet soit discuté et que le GNSO décide de ne pas le faire, ils doivent venir dire pourquoi. Pourquoi ils ne veulent pas. Alors, je ne pense pas que vous allez le lire dans le détail maintenant, mais j'y reviendrai plus tard sur cette question. Le travail pour le développement de politique est généralement fait au sein de groupes de travail. Au sein du at large, on utilise le terme de groupe de travail de façon assez large. Mais dans le PDP, c'est un terme qui se définit de façon très spécifique parce qu'il faut définir des règles par rapport à son fonctionnement. Nous avons aussi des équipes de rédaction qui sont utilisées pour des processus moins formels. Il y a beaucoup de discussions sur les groupes de travail chargés par le GNSO et d'autres organisations qui travaillent en commun, parfois la CCNSO, peut-être l'ALAC, peut-être une combinaison des groupes. Il y a beaucoup de flexibilité, de souplesse, et dans l'ICANN, ça nous intéresse de travailler avec les groupes de façon conjointe. Ce n'est pas facile. Il y a des groupes qui travaillent avec des méthodes très spécifiques. Mais je pense qu'au fur et à mesure où l'ICANN va progresser, nous allons voir que les groupes de travail vont travailler de plus en plus en commun. De quelle façon, je ne sais pas. Voyons les utilisateurs, comment est-ce qu'ils interagissent? Du point de vue du GNSO, les utilisateurs sont des registrants. Personne dans le GNSO a une responsabilité formelle pour s'occuper de ce que nous appelons les utilisateurs. Cela peut changer, le GNSO peut-être changera d'avis dans les années à venir, mais pour le moment, les registrants, c'est la même chose que les utilisateurs du point de vue du GNSO. Et donc, les utilisateurs, en tant que tels, n'ont pas de pouvoir de vote, même si une partie des GNSO pense qu'il faut défendre les droits des utilisateurs, mais ils n'ont pas le droit de vote. Dans le GNSO, j'ai une voix, mais je n'ai pas de vote. Prochaine diapo. L'un des changements qui sont intervenus avec le modèle de groupe de travail, c'est que même s'il s'agit d'une activité du GNSO, tout le monde peut y participer. Et c'est vraiment n'importe qui et tous, n'importe qui appartenant à AtLarge. Il y a des exigences, mais qui ne sont pas écrites. C'est-à-dire, si vous voulez participer d'un groupe de travail, il faut que vous soyez préparé. On espère que vous compreniez ce que vous allez faire dans ce groupe de travail. Et dans le monde actuel, les gens sont respectés et sont écoutés. Je dis de façon générale parce que parfois, on n'est pas respecté du tout, et pas seulement au sein du GNSO. Mais en général, les gens sont les bienvenus, leurs contributions sont appréciées parce qu'il y a un intérêt à ce que les PDP, les politiques, soient des bonnes politiques. C'est toujours le cas? Non. Parfois, les gens ne se soucient pas de ce que veulent les utilisateurs. Mais de façon générale, oui. Il y a en général très peu de personnes de AtLarge qui participent activement dans les activités de GNSO. Et ça, c'est un problème. Prochaine diapo. L'ALAC a la capacité de demander à ce que le GNSO se penche sur un sujet. Nous pouvons demander de faire un rapport pour décrire le problème. Le GNSO peut le faire, a le choix de le faire ou pas, mais il y a un seuil, comme nous avons vu, au niveau des votes qui sont nécessaires pour qu'il soit obligé de se pencher sur un sujet ou pas. Mais c'est un exemple intéressant. Il y a des politiques qui ont pu changer au sein de l'ICANN grâce à cette méthode, les registrants, les utilisateurs et les bureaux d'enregistrement aussi ont pu être bénéficiés par ce type de politique. Et l'une des politiques concernait justement le droit des utilisateurs une fois qu'il fallait renouveler l'enregistrement des noms de domaine. La quantité des gens qui participaient au groupe de travail était très faible. Il y avait moi et je présidais le groupe de travail, ce qui montre que le GNSO est ouvert à d'autres personnes. J'ai commencé comme un membre de l'ALAC et puis j'ai fini en président un groupe de travail du GNSO, mais c'était presque tout. Il y avait vraiment très peu de participation. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les registrants, les bureaux d'enregistrement y aient participé à ce groupe? Et c'est difficile d'avoir une conversation qui... Il n'y avait que eux dans le groupe. Et finalement, ils étaient d'accord entre eux tout le temps. Et c'était très difficile. Ce n'est pas une question de vote. C'est qu'il n'y avait pas d'interlocuteurs, d'autres interlocuteurs. Il n'y avait que eux. Donc, at large, doit participer dans ces décisions qui sont importantes pour tout le monde. Les gens doivent participer. Voilà. Je suis ouvert à toute question que vous pourriez avoir. Si ce n'est pas ici, peut-être qu'après. Pour les enregistrants, je voulais te poser une question. Je suis entré dans la page du GNSO pour voir les documents, le document du PDP. Et je vois qu'il est uniquement en anglais. Et notre région, comme tu le sais bien, il y a très peu d'entre nous qui parlent anglais. C'est pour ça que je vais te prier de bien vouloir suggérer au GNSO de traduire ce document, les PDP aussi, langue des Nations Unies, afin que tous les membres de l'At-Large puissent participer. Parce que je crois qu'il est très important qu'il y ait un accompagnement de la part des différents LES dans cette gestion que l'on fait des PDP. Merci. Merci. En général, les rapports de résultats sont traduits. Parfois, c'est un peu plus tard, mais en général, ils sont traduits. Et je crois que d'autres rapports sont aussi traduits dans plusieurs langues. Les groupes de travail travaillent tous en anglais. Et tous les documents intermédiaires sont rédigés en anglais. L'anglais, c'est la langue de l'ICANN. Donc, et nous n'avons pas le choix. Il se peut qu'on fasse, qu'il y ait des changements dans l'avenir. Peut-être que pas dans l'avenir immédiat. Mais je sais qu'il est difficile pour les gens qui ne sont pas anglophones ou qui ne parlent pas bien l'anglais. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la liste, sur la liste de langues traduites au sein de l'ICANN. L'important, c'est que les produits, les documents finaux soient traduits. L'idée, c'est de trouver des gens qui soient intéressés et qui puissent participer dans ces groupes, mais en anglais. Je suis désolée, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Le coût de traduire tous les documents intermédiaires et les visioconférences en langue, en différentes langues, est très élevé, est trop élevé. La seule critique que tout le monde a par rapport au processus de GNSO, du GNSO, c'est qu'il est trop long. Et le rendre encore plus long n'est pas une bonne idée pour l'avenir. Et je sais que c'est difficile. Je comprends votre souci, mais je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose par rapport à cela. Le défi, c'est de retrouver le plus grand nombre de personnes qui puissent parler en anglais, qui puissent participer des groupes de travail. Je sais que c'est un défi qui est d'autant plus difficile pour vous que vous ne parlez pas l'anglais. Mais je n'ai pas autre réponse à vous donner. Le débat de la langue est un débat qui doit être abordé en profondeur. Mais je faisais référence justement au document du PDP qui n'est en aucune langue, qui est uniquement en anglais. Et ce serait intéressant pour pouvoir nous incorporer au travail du groupe de bien comprendre ce qui se passe au sein du GNSO. Ce que je vous demande, c'est que vous demandiez une traduction de ce document qui est fondamental aux langues des Nations Unies. Que ce document soit traduit dans les langues des Nations Unies. Vous voulez parler du PDP d'un sujet en particulier ou le document général décrivant les PDP? Le même processus de développement de politique, c'est le premier document que je retrouve sur le site du GNSO. C'est un document qui s'appelle PDP. Mais laissez-moi regarder. Je vais ajouter que le site du GNSO est horrible et doit être refait. C'est impossible pour moi de trouver quoi que ce soit dans ce site. Alors, en contexte, peut-être que vous allez retrouver le document traduit, mais ailleurs. Il y a une référence à des documents dans le site du GNSO. Il y a un document politique de développement de processus. Après, il y a un document sur l'organisation. Et, attendez une seconde. Avec ces deux documents, ça nous suffirait pour comprendre au niveau d'Adlarge ce que le GNSO fait ou quelles en sont les règles de fonctionnement et en fonction de cela, pouvoir y participer. Après, il faudra encourager les gens à étudier de l'anglais pour participer des visioconférences, mais si les gens ne comprennent même pas à quoi ça sert de travailler dans ces groupes, ça ne servirait à rien. Si vous pouvez m'envoyer les URL, je vais vous dire où elle est, la version espagnole, si elle existe. Si c'est un document d'introduction, je suis d'accord avec vous, il doit être traduit, mais je suis presque sûre qu'ils ont été traduits. Humberto, tu voulais poser une question? Humberto Carrasco, Chili. C'était un plaisir d'entendre cette exposition. Je suis un peu inquiet, et cela par rapport au mot consensus, parce que ça on dirait qu'il y aurait une certaine frustration du fait qu'il y a des minorités qui profitent du terme consensus et qui voudraient imposer des positions alors que des larges majorités sont parvenues à ce type d'accord. Quels ont été les mécanismes de solution? Il y a quelqu'un qui a oublié de baisser le volume de son ordinateur? Voilà. Alors, quel mécanisme qui a été créé de façon pragmatique pour pouvoir résoudre ces problèmes? Comme j'ai bien dit, le mot consensus au sein de l'ICANN est utilisé de différentes manières. En ce qui concerne la façon dont les gens se mettent d'accord par rapport à un sujet et la façon dont on utilise le consensus dans la politique, qu'est-ce qu'on veut dire par politique consensuelle? C'est une politique à laquelle on est arrivé à travers un certain consensus. Il y a des règles spécifiques. Si vous allez au manuel du groupe de travail, je ne sais pas s'il est traduit en espagnol. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Nous définissons plusieurs types de consensus. Nous définissons le consensus total, le consensus partiel, le consensus avec des points de vue divergents. Le consensus total n'est pas l'unanimité, mais on est très près de l'unanimité. Ça commence à être utilisé de façon assez ordinaire et il nous faut toujours trouver, savoir de quel type de consensus il s'agit pour savoir de quel niveau de consensus on parle. C'est toujours difficile de se mettre d'accord sur une question. On ne peut pas arrêter une organisation pour qu'elle mette en place une chose parce qu'il y a une ou deux personnes qui s'y opposent. Mais nous avons des périodes de commentaires qui s'étendent pendant des périodes très longues. Et il y a des gens qui disent que ces périodes de commentaires sont faites pour faire en sorte que l'on écoute les gens alors qu'on ne fait pas attention à ce qu'ils disent. Mais nous passons beaucoup de temps à analyser ces documents, à analyser ces commentaires. Et très souvent, les gens abordent des questions qui ont été déjà abordées. Et d'autre part, les changements ont lieu à partir des commentaires. Il y a des changements qui sont faits suite à des commentaires. Ce que on peut pas faire, on peut pas. Ces commentaires ne peuvent pas briser le consensus, mais ils peuvent intervenir pour changer certains points de vue. Et nous devons toujours penser la façon de mieux tenir compte de ces commentaires. Parfois, les gens sont tout simplement en désaccord. La dernière question. Sergio Salinas. Je dois m'excuser, j'ai trouvé les versions dans les 6 langues et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci Sergio. Comme j'ai dit avant, le site web, parmi tous les sites web mauvais que l'ICANA, celui du GNSO, figure parmi les plus mauvais sites web de l'ICANA. J'ai demandé à Heidi quel est l'ordre du jour pour cette journée. Elle m'a dit que le calendrier public est celui qui est sur notre site web. Et j'ai passé une demi-heure à le chercher et je ne l'ai pas trouvé. Et finalement, j'ai trouvé une copie imprimée et c'est la façon dont j'ai pu connaître comment suivent nos réunions. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à notre site web? Mais de façon générale, si vous trouvez des documents que votre région veut avoir et que le nombre de ces documents n'est pas trop élevé, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vous. Peut-être qu'on peut vous donner une traduction raisonnable d'un nombre raisonnable de documents. Si vous... Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de traductions que les gens ne lisent pas. Et c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur documents qui intéressent justement. Je suis disponible. Je peux rester ici. Je pourrais rester ici pour répondre à plus de questions, mais les interprètes doivent partir. Donc peut-être qu'il faut s'arrêter ici. Une dernière question. Merci Alain. C'est juste une remarque par rapport à un sujet que vous avez abordé vers la fin de votre présentation. Vous avez dit qu'une personne ne peut pas modifier le consensus, mais pourrait modifier le résultat. J'ai pris note de ce que vous venez de dire et j'ai l'impression que si une personne peut modifier le résultat, finalement, elle affecte le consensus, elle intervient sur le consensus. Je pense que c'est un petit peu contradictoire, l'expression que vous avez utilisée. Oui et non. Si vous arrivez à un groupe et vous leur donnez une idée que vous avez eue et ils disent « c'est une bonne idée », vous êtes en train d'altérer un petit peu le consensus parce que vous avez convaincu ces gens-là du fait que votre point de vue est important et c'est un changement. Et c'est la façon dont les gens raisonnables peuvent arriver à des conclusions différentes. Vous n'utilisez pas une certaine autorité pour le faire, mais plutôt le pouvoir de vos arguments et c'est raisonnable. C'est quelque chose de raisonnable. Peut-être que j'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire avec votre question, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes, que ce soit dans le GNSO ou dans le Adlarge, peuvent changer les décisions. Est-ce que cela a répondu à votre question? Oui, merci. Je pense que c'est plus clair. Mais je vais y réfléchir un peu plus. Merci Alain d'avoir participé. Et merci à vous tous d'être venus et merci pour vos questions.